milieu des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 5 janvier dernier, voici deux semaines, Charlie Hebdo commémorait le 4e anniversaire des attentats de 2015, avec un numéro spécial où l'on trouvait les signatures de Philippe Plançon et de Yannick Enel, un entretien avec Aram Nouchkine contre la racialisation, un texte de l'historien américain spécialiste des Lumières, Robert Danton. Ce numéro était entièrement consacré à ce que le journal appelait « le retour des anti-Lumières ». La presse a signalé l'événement, mais plutôt en marquant la date anniversaire, c'est-à-dire qu'on a eu droit aux sempiternelles interviews avec la rédaction pour savoir comment vont les gens de Charlie, je cite, mais personne ne s'est trop attardé sur le contenu même de ce numéro, qui est toujours en vente en ce moment. Et c'est bien dommage, car ce contenu n'a rien d'anodin et ne va pas du tout de soi. Voilà par exemple ce qui écrit Rhys dans son éditorial, qui donne le ton. On entend gronder de plus en plus avec le bruit des bottes celui d'une propagande anti-lumière allègrement reprise par un aréopage de penseurs réactionnaires. Comme les fake news, le travail de ces intellectuels consiste à vider le cerveau de chaque citoyen de son ancien disque dur pour y installer un nouveau logiciel. Dans ce nouveau logiciel, lumière égale ténèbres, démocratie égale dictature. Ces escroqueries sémantiques annoncent une offensive plus profonde et violente. La poussée de fièvre mystique qui s'est emparée de nos sociétés réveille des intellectuels endormis qui attendaient depuis des décennies un signal pour monter à l'assaut des lumières. Les frères Kouachi ont sonné le tocsin. Depuis, ces anti-lumières ont poursuivi le travail, mais cette fois avec des mots et des idées. En d'autres termes, depuis la place qui est la sienne, Charlie Hebdo accuse un certain nombre d'intellectuels de poursuivre le travail des frères Kouachi. Mais peut-on vraiment dresser un tel parallèle entre des courants de pensée si réactionnaires soient-ils et des passages à l'acte meurtriers ? Est-ce vraiment le rôle d'un journal satirique de s'instaurer ainsi défenseur des idéaux de progrès et d'émancipation ? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire « les Lumières » ? Pour discuter de la question aujourd'hui avec nous, Céline Spector. Céline Spector, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous avez enseigné à Stanford, aux universités de Chicago, Kyoto et Bordeaux. Vous êtes professeur à l'UFR de philosophie de l'université Paris-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et vous avez écrit de multiples ouvrages sur la philosophie politique moderne et contemporaine, sur l'histoire de la philosophie depuis le XVIIIe siècle, en particulier sur l'héritage des Lumières chez des auteurs comme Michel Foucault et Habermas, dont un ouvrage en particulier, Éloge de l'injustice, aux éditions du Seuil, dont on parlera tout à l'heure. Et Gérard Biard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de Charlie Hebdo et vous êtes, j'imagine, celui qui avait, l'un de ceux qui ont coordonné en tout cas ce numéro sur les anti-lumières.
Oui. Oui.
Alors, c'est la première question. Pourquoi ce numéro maintenant ?
Bah, le pourquoi, Harris, on donne l'explication. Depuis 4 ans, depuis 2015, on fait à chaque, disons, anniversaire, un numéro vraiment de fond, sur une thématique particulière. L'an dernier, c'était sur... Là, les médias en avaient beaucoup plus parlé parce que ça les intéressait beaucoup plus. C'était beaucoup plus croustillant, c'était sur la sécurité. Comment un journal satirique et un journal politique est obligé, en gros, de s'enfermer dans un bunker pour continuer à travailler. Cette année, voilà, on a décidé de travailler ce sujet, de ce courant anti-lumière qui ressurgit à la faveur d'un renouveau de la pensée religieuse politique. Ce n'est pas, on ne fait pas un lien absolu entre les anti-lumières et les islamistes. C'est simplement le lien, il est fait entre la pensée anti-lumière et le retour des religions dans la politique. Or, il se trouve que aujourd'hui la religion la plus offensive à ce niveau-là, c'est l'islam. Mmh. C'est elle qui agit à la fois politiquement et à la fois avec des actions violentes, des actions de guerre. Donc il est question de ça, il est question aussi d'intellectuels.
C'est-à-dire que oui, vous ne faites pas un parallèle, mais enfin, vous faites quand même un lien. Quand il s'écrit « Les frères Kouachi ont sonné le tocsin » et depuis les intellectuels anti-lumière poursuivent le travail,
mais avec des mots et des idées et pas avec des kalachnikovs, il y a quand même un lien direct entre les deux qui est établi.
Oui, il y a un lien direct, mais ce lien, il est établi depuis bien avant janvier 2015. Il est établi aussi depuis l'affaire des caricatures de Mahomet, où on a vu cette association entre des penseurs de gauche et des gens avec qui, a priori, ils ne devraient rien avoir en commun, c'est-à-dire des obscurantistes religieux. Ce qu'on attaque surtout dans ce numéro-là, ce sont ces penseurs-là. J'ai pas de problème à attaquer des penseurs de droite. Quand je dois m'attaquer à une pensée qui se prétend de gauche, là, ça m'inquiète beaucoup plus, parce que je considère que normalement, c'est mon camp.
Et Jean-Yves Camus, qui intervient dans le numéro, oui. Lui s'en prend vraiment à une tradition de droite. Il parle d'une tradition intellectuelle devenue marginale dans sa forme théocratique et monarchiste, je le cite, mais qui reprend des couleurs avec un programme de démocratie organique et directe, bref, illibérale, tradition incarnée par une génération de jeunes intellectuels auxquels la mobilisation contre le mariage pour tous a donné les raisons d'un sursaut. Il évoque la nouvelle droite des années 70, puis il finit sur ces jeunes intellectuels. Vous-même, vous citez Éric Zemmour, Jean-Claude Michéa, Michel Houellebecq, Jean-François Colosimo, Régis Debré. Il y a d'autres noms qui apparaissent au fil des pages, dont Ouria Boutelja, Marion Maréchal. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Le numéro dessine une sorte de géographie intellectuelle qui a à voir, dans l'optique du journal, avec la violence pure, avec la violence des frères Kouachi qui est nommée par Riz.
Bien sûr, parce que cette pensée s'exprime aujourd'hui par la violence. C'est une pensée qui est antidémocratique,
qui n'est pas purement française d'ailleurs.
Qui est plutôt, en ce qui concerne son aspect de gauche, parce qu'effectivement, Jean-Yves Camus, lui,
quand vous citez Zemmour et Houellebecq, vous ne citez pas des gens de gauche.
Non, je ne cite pas des gens de gauche, mais par exemple, dans ma chronique où je m'attaque là spécifiquement à la pensée postcoloniale et à ce qu'on appelle les intersectionnalités, là, c'est une pensée qui se dit de gauche, qui est plutôt effectivement d'origine anglo-saxonne, qui vient clairement des États-Unis. Donc c'est cette espèce de fusion de gens qui se prétendent opposés, mais qui au fond combattent les mêmes choses avec bien souvent les mêmes arguments. Ils ne combattent pas seulement la laïcité, ils combattent l'universalisme. Ils combattent la démocratie, ils combattent aussi un des aspects des Lumières qu'on oublie trop souvent, c'est-à-dire la pensée scientifique, ce qui n'est pas la technique, ce qui n'est pas la technologie. La pensée scientifique, c'est, là, Antonius Fischetti fait quelques papiers là-dessus, c'est comprendre le monde, c'est comment l'expliquer. Ça aussi, c'est combattu par des penseurs, et des penseurs qu'a priori, on n'attendrait pas dans ce type de combat. C'est ça aussi qu'on a voulu, enfin c'est ça surtout qu'on a voulu analyser dans ce numéro.
Alors vous citez, c'est-à-dire qu'on voit à la fois ce que vous voulez dire et en même temps ça reste flou. Quand vous citez Marion Maréchal qui dit par exemple l'émancipation de l'individu pensée par les Lumières, autrement dit la capacité à transcender sa condition sociale et sa famille est devenue une sorte d'intégrisme, on a l'impression qu'elle pourrait faire écho effectivement à ce que pourrait dire Ouria Boutelja par exemple.
Oui, bien sûr.
Mais en même temps, vous dessinez une sorte de géographie généralisée d'un monde anti-Lumière dont le terrorisme islamiste serait en quelque sorte l'avant-garde. Voir la violence islamiste aurait permis à ce courant généralisé qui vient de la droite comme de l'extrême gauche de ressusciter ou de revenir un peu sur le devant de la scène. C'est ça que vous voulez dire?
J'en parlerai pas comme d'une avant-garde, j'en parlerai comme d'élément perturbateur, l'élément déclencheur. Enfin, déclencheur. C'est un des moyens d'expression pour cette pensée, mais elle a bien d'autres voies d'expression.
Est-ce que c'est le rôle d'un journal satirique de porter le drapeau de l'émancipation et de la tradition philosophique occidentale?
En tout cas, c'est le rôle de Charlie Hebdo et ça l'a toujours été. On oublie souvent, trop souvent d'ailleurs, que oui, Charlie Hebdo est un journal satirique, mais c'est aussi un journal politique. Et ça l'a toujours été, depuis sa création à la fin des années 60. C'est un journal qui pensait déjà l'écologie politique, Cavanna écrivait des articles politiques. On confond trop souvent Charlie Hebdo et Harakiri, qui étaient faits en partie par la même équipe, mais qui n'étaient pas du tout les mêmes journaux. Et aujourd'hui, nous sommes un journal satirique, évidemment, mais la satire est une expression, ce n'est pas une idée. Donc on exprime par la satire des idées, et les idées que l'on exprime sont des idées politiques. Donc de toute façon, c'est le rôle de la satire, de faire de la politique.
Est-ce que vous prenez le pari de vous mettre dans une situation de
d'institution garante de la démocratie, en quelque sorte, de symbole de la démocratie, qui est contraire, en quelque sorte, à la tradition satirique, qui est beaucoup plus anarchisante.
Je ne sais pas si Charlie Hebdo a jamais été vraiment un journal anarchiste. Hein. Mm-hmm. Cavanna n'était pas un anarchiste.
Mm-hmm. Hein. La satire n'est pas censée être complètement responsable.
Alors, il y a un débat sur le mot responsable et irresponsable, qui est un vieux débat auquel on s'est déjà confronté aussi à Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui est plus responsable, éclairé, de manière parfois effectivement un petit peu iconoclaste, voire très iconoclaste, certains traits de la société, certains traits politiques, ce qui est le rôle de la satire, ou essayer de noyer le poisson en étant précisément raisonnable, en essayant de ne pas mettre d'huile sur le feu. Comme on, là, j'emploie à dessein des expressions qu'on nous a très souvent ressorties, de ne pas faire de vagues. Pour moi, l'irraisonnable se situe là. Nous sommes un journal raisonnable dans le sens premier du terme, à savoir que nous, on défend la raison.
Céline Spector, comment vous voyez cette démarche de Charlie Hebdo de défense des Lumières?
Alors, dans un premier temps, je dois dire que je m'en réjouis. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, le procès des Lumières a pris une telle ampleur que, au fond, revenir à des positions simples, même si elles peuvent paraître parfois un peu dogmatiques, peut avoir du bon. Je trouve qu'il y a en fait deux positions symétriques qu'il faut éviter quand on essaye de penser l'héritage des Lumières. La première, c'est ce que Foucault appelait le chantage pour ou contre les Lumières. Une sorte d'injonction à être soit défenseur des Lumières, soit critique des Lumières. Et c'est vrai que c'est un piège possible hein, dans l'héritage des Lumières. Mais il y a une autre position qu'il faut éviter symétriquement à mes yeux, qui est de considérer que finalement les deux sont symétriques et que être pour ou contre les Lumières, c'est la même chose, qu'au fond, dans les deux cas, on prend un objet qu'on hypostasie, qu'on considère de manière monolithique. Et je pense qu'en effet, il y a une défense éclairée des Lumières et qu'il est bon qu'on la fasse, et ça passe notamment par la défense de la liberté d'expression.
Vous-même, vous avez travaillé sur le sujet, vous avez travaillé sur les Lumières. Est-ce que vous pensez que les Lumières sont aujourd'hui une arme efficace contre la violence du monde, la violence telle qu'on la voit depuis... Est-ce que vous pensez que la philosophie a vraiment un rôle à jouer contre la violence actuelle?
Alors la question est piège. C'est-à-dire qu'effectivement, les Lumières ne sont pas une arme comme telle. C'est un outil théorique, évidemment. On dit parfois que les Lumières, alors en tant que processus philosophique de l'Aufklärung, l'acte d'éclairer les esprits, de lutter contre les préjugés, de lutter contre le despotisme et le fanatisme, cet acte-là, c'est évidemment un processus qui est absolument requis et nécessaire. C'est ce qui nous permet finalement de faire face à la violence du monde. Ça ne veut pas dire qu'on répond aux armes par les armes. C'est évidemment pas du tout sur le même plan. Alors, ce que je voudrais faire, c'est dire d'abord que, évidemment, les Lumières ne sont pas monolithiques, elles sont plurielles. Oui. Mais il y a quelque chose qui me tient à cœur, notamment dans les Lumières françaises, c'est le souci justement du mal et de la violence. Oui. C'est-à-dire qu'on a souvent dit que les Lumières sortaient du paradigme théologique, c'est-à-dire par exemple le paradigme pascalien, la chute, le péché originel qui vient d'Augustin. Et donc on a une sorte de vision un peu optimiste, un peu béate des Lumières, comme si tout d'un coup la raison allait triompher du mal et des superstitions. Mais c'est pas du tout ça les Lumières au sens fort. Et en tout cas, il y a tout un courant et différentes polémiques autour de la question du mal, notamment en France, après le tremblement de terre de Lisbonne, entre Voltaire et Rousseau, sur la question de savoir si le mal est inhérent à la nature de l'homme, entre Hobbes et Rousseau. Et c'est une question très polémique et qui est en fait au centre de la réflexion anthropologique des Lumières. Donc voilà, je voudrais un peu qu'on sorte de cette vision idéalisée et naïve des Lumières et qu'on voit qu'en fait, les grands philosophes, les vrais grands philosophes étaient des réalistes qui se demandaient finalement d'où vient le mal. Est-ce qu'il vient évidemment de la nature elle-même? Est-ce qu'il vient des institutions? Dès lors qu'on ne pense plus qu'on puisse évidemment exempter complètement la nature ou la société de l'origine du mal.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
How long can a lie be told? What would I take in exchange for my soul? Would I notice when it was sold? Wake me up, wake me up, wake me up with a slap or a kiss. There must be something better than
on the graveyard ship. Here comes the flood if you catch my drift. Where the things that they promised are not a gift. A man falls through a mirror of a lake.
Alors, Céline Spector, dans votre livre Éloge des injustices, vous commencez par une phrase de Habermas que vous avez mis en exergue qui dit ceci. Depuis le 11 septembre, je ne cesse de me demander si, au regard d'événements d'une telle violence, toute ma conception de l'activité orientée vers l'entente n'est pas en train de sombrer dans le ridicule. C'est une phrase énigmatique citée comme ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que la philosophie constate sa propre impuissance devant l'irruption de la violence du réel ?
Alors, ce n'est pas n'importe quelle philosophie. Habermas est clairement l'un des plus grands philosophes politiques du XXe siècle, hein, et il le reste à mes yeux, puisqu'il est encore vivant. Et il avait élaboré à un certain moment de son histoire, de sa trajectoire intellectuelle, une théorie de l'agir communicationnel, orientée vers l'entente, orientée vers le consensus, qui reposait sur l'idée d'un dialogue, d'une situation idéale de parole, et finalement d'un échange d'arguments rationnels qui devait, dans de bonnes conditions, conduire à une forme d'entente. Et évidemment, ce processus rationnel, directement hérité de l'espoir des Lumières d'éclairer l'espace public, eh bien, ce processus se brise, se fracasse littéralement avec les avions qui s'écrasent sur les tours. Et il y a ici comme un effet de réel. Tout d'un coup, la philosophie, en effet, risque de se sentir complètement décalée, complètement impuissante face à cette résurgence de la violence. Ça a conduit notamment le philosophe Jean-Pierre Dupuy à se demander « Avions-nous oublié le mal ?» Et je crois que Habermas ressent quelque chose du même ordre, c'est-à-dire que justement, il avait dialogué avec John Rawls, ils avaient eu un dialogue autour des théories de la justice, autour de la place de la raison dans
le
dialogue.
Il faut expliquer en une phrase John Rawls.
John Rawls, qui lui aussi est un des plus grands auteurs philosophes politiques du XXe siècle, qui avait élaboré aux États-Unis une théorie de la justice qui a eu un succès phénoménal en 1971, théorie de la justice. Voilà, donc il y a toute une réflexion sur les meilleures normes de la société juste. Et là, tout d'un coup, on est confronté à l'irruption d'une violence qui semble sans justification, qui semble en un sens, même si elle a des raisons, gratuites. Et donc, de ce point de vue, Habermas a le courage de s'interroger et de revenir sur son propre cheminement intellectuel. Et depuis, d'ailleurs, il n'a cessé de le faire en s'intéressant de manière prioritaire, par exemple, à la question de l'Europe, qui désormais lui paraît être la question majeure, ou à la question du dialogue avec les religions. C'est-à-dire qu'on a une reconfiguration du rationalisme. Habermas se veut l'héritier des Lumières. Il le dit clairement, notamment dans un texte qu'on lui remet le prix Adorno en 1980. C'est un texte qui a été publié sous le titre « Discours philosophique sur la modernité ». Donc il se veut l'héritier du projet des Lumières dans une reconfiguration qu'il en propose, mais il est très clair sur le fait qu'il ne faut pas sombrer dans une sorte d'illusion rationaliste.
Voilà, c'est ça. Alors, d'où vient la question de Jean-Pierre Dupuy ? Avons-nous oublié le mal ? Est-ce que la philosophie, à un moment donné, a oublié une part de négativité ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors c'est une hypothèse que je fais en effet dans le livre, où j'essaye de fournir, on pourrait dire, un diagnostic du présent, et notamment de la situation dans la philosophie politique normative, disons de type plutôt anglo-saxonne, qui est aujourd'hui dominante à l'échelle mondiale. Et c'est vrai qu'il y a tout un pan de cette philosophie, je ne veux pas généraliser abusivement, mais il y a tout un pan de cette philosophie qui se déroule, on pourrait dire, dans le calme des salles de séminaire, entre philosophes qui pratiquent la philosophie comme une discipline universitaire, et qui a tendance à spéculer énormément à partir de postulats sur la nature humaine, et notamment de postulats ultra-rationalistes, qui peuvent s'avérer dangereux précisément parce que les belles constructions finissent par ne plus avoir aucun rapport avec la réalité du monde tel qu'il va. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, justement, les grands philosophes des Lumières, notamment françaises, ne faisaient pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un pari sur le fait qu'il faut rompre avec les illusions métaphysiques du XVIIe siècle et il faut partir de l'observation. Donc une réflexion anthropologique fondée sur l'observation, la critique de l'esprit de système qui est attribuée au siècle précédent et la volonté de reconstruire peut-être des systèmes, enfin en tout cas des philosophies qui sont complètes, mais qui sont entièrement fondées sur l'expérience, avec vraiment un empirisme qui est extrêmement puissant. Et ça, je crois qu'on l'a un peu perdu.
Oui, alors cette philosophie anglo-saxonne de la rationalité, c'est l'idée que les gens agissent en fonction de leur intérêt bien compris. C'est-à-dire qu'ils coopèrent naturellement entre eux quand ils savent quel est livre, quel est leur intérêt, c'est ça?
Alors pas nécessairement, parce que justement la grandeur de John Rawls, et c'est une philosophie qui a vraiment des vertus tout à fait puissantes, c'est qu'il rompt avec le modèle de l'homo economicus qui pourrait paraître prévalent, en tout cas le modèle qui a été construit à partir des théories économiques. Donc il ne faut pas non plus le caricaturer. C'est un modèle qui, par exemple, pose que nous avons ce que Rawls appelle un sens de la justice, c'est-à-dire finalement une sensibilité morale au juste et à l'injuste qui en fait est inspirée de Rousseau. Donc il ne faut pas du tout le rabattre hein, sur simplement, il dit souvent que sa théorie n'a rien à voir avec un simple modus vivendi à la Hobbes. Donc il ne s'agit pas simplement d'harmoniser des intérêts plus ou moins artificiellement grâce à un État plus ou moins autoritaire. Donc il s'agit au contraire de partir de l'idée qu'on peut construire des principes de justice. Ces principes peuvent faire l'objet d'une forme d'entente à l'échelle des sociétés démocratiques en tout cas, comme il le dit un peu plus tard, et qu'au fond ces normes de justice peuvent être appliquer dès lors que nous avons ce sens de la justice qui est finalement, disons, le désir de coopérer, comme vous dites, et puis d'appliquer, de suivre les principes de justice une fois que nous en avons reconnu le mérite et la vérité.
Et c'est ça qui trouve sa limite brutalement au début des années 2000, c'est ça que vous dites?
Disons que c'est vrai qu'il y a eu un certain succès de la philosophie politique normative après John Rawls, que cette philosophie s'est emballée. Alors, bon, Rawls est un personnage complexe et intéressant parce que lui-même a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il avait produit des textes sur le péché et la foi qui sont hantés par la question du mal. Donc il ne faut vraiment pas caricaturer sa pensée. Mais après, on a des générations de post-Rawlsiens qui en effet fonctionnent purement dans le huis clos de la salle de séminaire et qui fonctionnent avec des hypothèses rationalistes qui n'ont en effet plus rien à voir avec la réalité. Et donc l'oubli de la question de la négativité, j'ai tenté de la mettre effectivement au centre de ma réflexion en disant que oui, il n'y avait pas ce défaut-là dans la philosophie politique moderne.
C'est impossible de résumer tout le livre, Éloge de l'injustice, mais vous essayez effectivement de retracer l'histoire d'une certaine forme de négativité dans la philosophie politique, en particulier à travers la manière dont les philosophes, depuis Platon, ont inventé des personnages conceptuels, on peut dire. C'est des personnages qui viennent servir une certaine forme de négativité. Vous en faites l'historique, je ne vais pas la refaire ici en détail. Il y a Calliclès expliquant à Socrate qu'il est pire de subir une injustice que de la commettre. Donc finalement, si on doit choisir entre subir une injustice et commettre des injustices, il faut commettre des injustices et puis c'est tout. Et que les conventions démocratiques sont en quelque sorte une conspiration des faibles, que les lois de la cité sont l'expression d'un ressentiment contre les êtres d'exception. Il est presque nietzschéen, alors que c'est quand même un personnage de Platon. Il y a Hobbes, évidemment. Et puis petit à petit, vous dessinez une sorte de typologie de ce que vous appelez l'insensé, que les philosophes mettent en scène pour venir contrer leurs propres arguments. C'est-à-dire qu'au départ, il s'agit vraiment de renforcer les thèses des Lumières à travers un personnage négatif, un personnage sombre. Mais en fait, le paradoxe, c'est que ce personnage, au fil des générations, de Hobbes jusqu'à Rousseau et puis finalement Sade, est tellement fort qu'il finit par échapper en quelque sorte à ses créateurs successifs et il devient finalement le personnage noir le plus fascinant de la philosophie. Et parmi les masques qu'il prend au fur et à mesure des générations, ce qui est passionnant, c'est de voir qu'il apparaît sous la forme de l'homme indépendant, dit Rousseau, ou il apparaît sous la forme du cynique sans scrupules qui peut mentir, ne pas respecter ses contrats comme chez Hobbes. Il apparaît comme le grand seigneur qui ne pense qu'à jouir et à exprimer sa cruauté et sa libido, ou comme l'exalté fanatique. C'est-à-dire qu'il peut être aussi bien libertin que fanatique dévot.
Oui, alors moi ce qui m'a fascinée, et c'est vrai en particulier au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est que les philosophes des Lumières, tout rationaliste qu'ils soient, ont identifié qu'il y avait deux sources majeures du mal. Il y a une source, disons, qui est totalement extérieure à la raison, c'est le fanatisme qui est guidé notamment et manipulé par des autorités, notamment cléricales. Donc ça, c'est une source évidente du mal. Mais il y a aussi, symétriquement, une sorte de cynisme opportuniste, celui qui ne veut que jouir et suivre son intérêt immédiat. Et ça aussi, c'est une source du mal. Et c'est une source du mal d'autant plus dangereuse lorsqu'on entre dans un phénomène de sécularisation. Alors, c'est le cas par exemple chez Hobbes, puisque Hobbes lui-même est vraisemblablement athée, c'est un matérialiste notoire, il a été à la limite hein, d'être persécuté violemment. Il a dû partir en exil, bon, aussi pour des raisons politiques. Hein. Mais disons qu'il met en scène un personnage dans le Léviathan qui s'appelle l'insensé, comme on dit en français, the fool en anglais. Et ce personnage, c'est en un sens un autre lui-même. C'est un alter ego. C'est-à-dire que c'est précisément ce libertin sans foi ni loi, qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas peur du châtiment divin, et donc qui pourrait être tenté de ne pas respecter les contrats et potentiellement, disons, de trahir ses promesses, de ne pas suivre les lois, éventuellement d'être violent, bien sûr. Mmh. Et donc, Hobbes a parfaitement conscience qu'il s'agit aussi d'un danger pour la société et qu'il faut lui opposer, d'une part, l'État Léviathan, hein, qui, avec ses sanctions, va en quelque sorte le remettre sur le droit chemin, mais aussi un argument rationnel qui est celui de la crainte de l'ostracisme. C'est-à-dire qu'au fond, l'insensé doit bien savoir qu'il y a un certain nombre de normes sociales qui doivent l'empêcher d'agir comme un opportuniste parfait.
Mmh. Chez d'autres philosophes, cette figure de l'insensé prend la foi. Ça peut être Don Juan, par exemple.
Absolument.
Et ça peut être évidemment le héros sadien par excellence.
Alors le héros sadien rajoute une dimension supplémentaire qui est celle de la cruauté, mmh. hein, qui n'était pas chez Hobbes. Hein, chez Hobbes, on avait toutes sortes de, disons, de problèmes ou de pathologies qui étaient liées à l'intérêt lui-même, l'intérêt calculateur hein, et la raison instrumentale. Sade ajoute à la raison instrumentale hein, cette cruauté qui est associée à l'énergie libidinale elle-même. Hein, mmh. Évidemment, c'est une nouvelle dimension.
Mmh, mmh. Qui va avoir un certain succès dans la suite.
Absolument.
Y compris dans les actes. Qu'est-ce que vous pensez, Gérard Père, de ce parallèle comme ça entre le libertin cruel, éventuellement meurtrier, et le dévot exalté, voire le fanatique, qui sont les deux des figures ennemies de tradition des Lumières?
Alors, c'est effectivement intéressant parce que, quelque part, aujourd'hui, ils se rejoignent totalement. Dans ce dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire que on a effectivement d'un côté des fanatiques qui développent un discours, il y a ceux qui le mettent en acte ce discours, et puis il y a ceux qui le font avancer dans la société, et puis il y a ceux qui sont effectivement soit des cyniques, soit ce que décrit tout à fait Houellebecq dans Soumission, c'est-à-dire quelqu'un qui, ma foi, trouve que c'est pas si mal d'accepter un régime autoritaire, qu'on peut y trouver son compte. Il y a cette dimension purement individualiste que l'on retrouve aujourd'hui dans certains penseurs des antilumières qui développent eux aussi une pensée qui non pas individualise mais sectorialise. Mm-hmm. On le voit dans l'antiracisme par exemple, où on ne parle plus d'un antiracisme universaliste, mais bien d'un antiracisme oui, oui. sectoriel. Et ce qui conduit finalement à développer des théories où on considère que le meilleur régime politique, c'est l'apartheid, parce que chacun est bien dans son coin, avec ses propres problèmes, que lui seul peut résoudre. C'est le discours des militants de l'intersectionnalité qui vont vous dire je suis une femme, je suis une femme noire, je suis une femme handicapée, donc je subis 3 discriminations, ce qui est vrai, mais qui vont aussi vous dire je ne peux parler de ces discriminations contre soi.
Oui.
C'est le titre du livre d'Eddie Lodge, pourquoi je ne parle plus de racisme avec les blancs. Avec qui elle va en parler alors? C'est très amusant pour un journal satirique, justement. C'est que le raisonnement est tellement poussé à l'absurde que ça produit quelque chose.
Il n'y a plus qu'à en rire.
Il n'y a plus qu'à en rire. En grimacer parfois, mais en rire. Ouais.
Alors, parmi les questions qui se posent, on a l'impression, dans votre livre, Céline Spector, qu'à un moment donné, les philosophes politiques, effectivement, créent ces sortes de doubles potentiels d'eux-mêmes qui viennent contrer leurs arguments en faveur d'une vertu civique, en quelque sorte, et qu'à un moment donné, ce double maléfique, en quelque sorte, devient si puissant que... on a le sentiment que les philosophes baissent les bras. C'est-à-dire que, vous donnez l'exemple de Rousseau, qui est fascinant, qui, à la fin de sa vie, en quelque sorte, devient l'homme indépendant qu'il a fustigé pendant toute l'époque du contrat social. C'est-à-dire qu'il devient lui-même son propre négatif, en quelque sorte.
Alors, je ne suis pas sûre que Rousseau soit un exemple typique, hein, parce que c'est vraiment une subjectivité très singulière. Et je ne crois pas qu'il ait voulu baisser les bras. Mm-hmm. Donc je voudrais quand même pas qu'on puisse dire une chose aussi dure à son égard, parce qu'il a quand même été très violemment persécuté, hein, et puis par ailleurs il a sombré dans la folie, hein, donc il faut quand même pas le prendre comme un emblème, hein, de la raison des Lumières. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il a essayé de faire dans son œuvre de philosophie morale et politique, c'est justement de répondre à ce défi qui avait été posé par Diderot avant lui, qui est le défi du raisonneur violent.
Oui.
Et c'est ce défi du raisonneur violent, c'est-à-dire finalement un être qui dit « mais pourquoi est-ce que je me plierais aux normes sociales ? Pourquoi est-ce que j'accepterais les règles du jeu ?» etc. qu'il reprend sous le schéma de l'homme indépendant, et aujourd'hui on l'appelle le passager clandestin, finalement, du système social, celui qui veut profiter des bénéfices, mais sans faire ses devoirs, sans accepter les fardeaux, hein, de la coopération sociale. Alors, disons que cette figure de l'homme indépendant, Rousseau essaye clairement de l'apprivoiser. Il y a un texte magnifique du manuscrit de Genève, hein, qui est le texte préparatoire au contrat social, juste avant la parution, qui n'est pas paru, où Rousseau dit, finalement, c'est cet ennemi du genre humain, hein, c'est pour lui que je vais construire la cité du contrat. Mmh. Et au fond, il devrait être convaincu de la pertinence, hein, et sa raison va être éclairée, ses sentiments vont s'anoblir, et au fond, c'est le défi ultime pour un philosophe éclairé et qui veut éclairer les autres, que de convaincre l'ennemi du genre humain. Et Rousseau est persuadé qu'il s'agit pas seulement d'un processus de conviction rationnelle, mais que c'est un processus qui engage aussi la rhétorique, l'éloquence, la formation des passions, hein, et que ça suppose tout un travail d'éducation. Il n'est pas du tout naïf, hein, il pense pas du tout que la raison va triompher comme ça instantanément. Donc c'est toute cette réflexion sur l'éducation qui mène par ailleurs dans l'Émile et dans d'autres œuvres. Donc Rousseau, à la fin de sa vie, c'est un autre personnage, hein. C'est un personnage qui a été détruit, persécuté, qui a cru qu'il y avait un complot contre lui. Alors on parle beaucoup de théorie du complot aujourd'hui, mais Rousseau était persuadé, hein, que ses anciens amis, philosophes, encyclopédistes, menaient un complot à l'échelle européenne contre lui.
Oui, mais
il y avait une petite part de vérité dans ce qu'il pensait, parce que de fait, tout le monde ne lui voulait pas du bien, et c'était un personnage très célèbre, donc il s'est effectivement fait persécuter. Et à la fin de sa vie, effectivement, il se retire, hein, de la société, hein. « Me voici donc seul sur la terre », hein, c'est comme ça qu'il ouvre les rêveries. Et c'est seulement dans ces conditions-là qu'il redevient, en un sens, cet homme indépendant, c'est-à-dire ce passager clandestin du social, hein, qui n'a finalement plus vocation à s'intégrer à une société.
Mais il passe quand même, en quelque sorte, de l'autre côté. Enfin, il y a quand même...
Il passe de l'autre côté, hein, et il prétend qu'un contrat social unanime l'a rejeté de la société de ses pairs. C'est une idée folle de se dire, finalement, il a pensé le contrat social, il a essayé de penser les conditions d'une société juste, et là, tout d'un coup, il se dit, toute la société m'a expulsé du corps social, et donc me voici redevenu un homme indépendant, l'homme de la nature, hein, rendu à lui-même.
En ce sens, il y a chez lui une part de pré-romantisme ressentimenteux, quand même, qui apparaît à un moment donné.
Disons que les romantiques se sont beaucoup appuyés sur la figure de Rousseau, pas seulement sur la figure des rêveries, mais aussi la nouvelle Héloïse. Enfin, il y a énormément de textes de Rousseau qui incarnent cette sensibilité, cette littérature de la sensibilité qui va avoir un succès phénoménal au siècle suivant.
Mais la question qui est posée par tous, enfin quand même, si on regarde un peu votre livre, c'est qu'est-ce qui se passe quand la voix de la raison n'est tout simplement pas convaincante, qu'elle reste sans portée sur le dictateur ou sur la brute? C'est la question que posait l'Ecclésiaste. On a l'impression que la supériorité du sage sur la brute est nulle, écrit l'Ecclésiaste. On a l'impression quand même aujourd'hui qu'on revient à cette espèce de constat d'une sorte d'arrêt, de blocage de l'idéal des Lumières, non ? C'est une question que je vous pose à tous les deux, pour le coup.
Mais disons que je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans les philosophes des Lumières, moi, qui retiennent mon attention, comme Montesquieu, Diderot, Rousseau, etc., c'est l'attention à la rhétorique, à la formation de la sensibilité, à la formation des passions. C'est-à-dire que aucun d'entre eux ne pense que la raison va s'énoncer et qu'elle va immédiatement trouver une application concrète. Hein, ce ne sont pas du tout des penseurs utopistes en ce sens. Hein. Ce sont des penseurs qui vraiment prennent en compte dans leur discours les conditions de possibilité, disons, d'être entendu. Et ça passe notamment chez Rousseau par toute une théorie du langage, de la rhétorique, de l'éloquence, comment former les passions. Et ça, c'est un processus long, c'est un processus complexe qui passe aussi par l'invention de genres littéraires et pas simplement d'un discours abstrait. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Sinon, cette attention à l'éloquence propice. Mmh. C'est-à-dire, pas simplement croire que le discours philosophique va pouvoir s'énoncer dans des traités abstraits et spéculatifs qu'une petite partie lira, une petite partie du corps professoral, enseignant ou étudiant, mais qui n'auront aucune diffusion. Mmh. Et c'est en ce sens que l'idéal des Lumières continue à avoir un sens, parce que, entre guillemets, ne s'agit pas simplement de dénoncer les fausses promesses d'émancipation comme on le fait constamment en faisant le procès des Lumières. Il faut penser plutôt quels sont les ressorts concrets de l'émancipation qui passent par un travail sur les passions.
Gérard Biard, cette difficulté des mots à finalement convaincre celui qui n'a tout simplement pas envie d'être convaincu.
Oui, parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est le problème du temps, précisément, qui aujourd'hui, dire le temps, vous parlez du temps long, aujourd'hui c'est un gros mot, le temps long. Il faut de l'instantanéité. Oui. Et donc, l'instantanéité, ça favorise effectivement les brutes. Ça favorise la violence, parce que c'est ce qui va le plus vite. On convainc beaucoup plus facilement par un coup de poing que par un argumentaire pesé, réfléchi. Ça demande du temps de convaincre, de convaincre par les mots. D'abord, il faut trouver les bons mots, il faut trouver ce qui va toucher l'interlocuteur à qui on s'adresse. On lui met une gifle, c'est réglé. Donc, aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on est dans une période et dans une société qui, par cette obsession de la vitesse, c'est aussi un des problèmes de l'information, c'est qu'aujourd'hui, on commande des tweets. Donc, on ne commande plus des événements. Ça produit des mouvements sociaux, des partis politiques, des forces intellectuelles qui privilégient la violence plutôt que l'argumentation et plutôt que la raison.
Ou comme on le voit avec les gilets jaunes, où on ne sait plus à qui on a affaire, une espèce de brouillage total.
Voilà, les gilets jaunes, à mon sens, sont le pur produit de l'endroit où ils se sont formés, c'est-à-dire Internet et les réseaux sociaux, où on est dans l'instantanéité. Et on est aussi dans le... c'est la culture du nombril, c'est la culture du selfie. C'est-à-dire on ne pense le monde que par rapport à soi. La difficulté qu'ont les gilets jaunes à se structurer, à accepter... d'avoir des représentants, à accepter même d'écouter un argument, fut-il totalement aberrant, mais après on le contredit, c'est précisément parce que ils sont le produit de cette culture du selfie. C'est-à-dire on est tourné vers soi-même. Et absolument pas, ni sur la société, ni sur le collectif, ni sur l'autre.
Mais enfin, oui, c'est très possible que le temps court ne favorise pas le développement d'arguments. Mais en même temps, c'est l'inspecteur dans votre livre, on se rend compte que finalement, 3000 ans de tradition philosophique, on n'arrive pas vraiment à se débarrasser de cette figure de l'insensé qui nie finalement la puissance des mots et la bonne volonté civique au profit de son propre intérêt ou au profit d'une sorte de cynisme généralisé. On n'y arrive pas. Le seul moment où finalement la tradition philosophique semble y arriver, c'est ce que vous disiez au début de l'émission, c'est quand finalement cet insensé disparaît de la tradition philosophique, c'est-à-dire en gros à partir du 19e siècle, pour une tradition philosophique qui devient tout à fait autre, qui devient beaucoup plus scientifique, alors que l'insensé va se réfugier, ça c'est pas vous qui le dites, c'est peut-être moi, mais dans la littérature, c'est-à-dire chez Dostoïevski, chez des gens comme ça.
Oui, non, je suis parfaitement d'accord avec vous. L'insensé se réfugie dans la littérature, dans le cinéma, enfin dans toutes les nouvelles formes d'expression artistique qui se créent aussi au XXe siècle. Même il reste dans le théâtre, si on considère que le théâtre s'est maintenu. Donc, je pense que la philosophie a trouvé une position de repli, de refuge. Alors là encore, je parle, disons, dans les grandes lignes pour ce qui constitue le mainstream de la philosophie politique. Alors, il y a des philosophes qui ont continué à s'interroger, bien sûr, au XXe siècle, notamment après la Shoah. Évidemment, il y a eu tout un mouvement de réflexion. Alors, Arendt en étant l'emblème, la question de la banalité du mal, etc., enfin, à partir du procès à Eichmann. Mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en effet, à partir du 19e siècle, la réflexion s'est structurée en grands courants. Alors, ça tient à la séparation entre la philosophie, la littérature, puis la naissance de la sociologie d'un autre côté. Donc, l'autonomisation de la philosophie, son institutionnalisation à l'université. Mais c'est vrai que, de ce fait, on a moins eu ce dialogue entre le philosophe et son autre, et moins de mise en scène de la meilleure manière de le convaincre, surtout, ou de la meilleure manière d'essayer de faire passer les thèses philosophiques, notamment sur le caractère pertinent d'une conduite juste, sur le fait que mieux valait en effet disons, subir l'injustice que la commettre, hein, comme essayait de le démontrer Platon dans la République. Donc ça, la volonté d'essayer de mettre en scène la difficulté de faire passer le discours philosophique, elle a, à mon sens, disparu à tort. Et c'est un peu ça que j'essaye de diagnostiquer dans le livre.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une coïncidence, au moins temporelle, entre cette disparition dans la philosophie politique de cette figure négative, sa naissance en littérature et la montée d'un romantisme anti-moderne qui rejoint une tradition anti-lumière? Je pense à Dostoïevski, qui n'est pas exactement le plus progressiste des écrivains, Baudelaire, bien sûr, et d'autres qui reprennent à leur compte cette espèce de négativité, hein, les fleurs du mal, c'est quand même beaucoup ça, mais qui progressivement va se développer en une sorte de vision du monde autonome de la philosophie qui va avoir une influence réelle une influence sur le réel.
Alors c'est vrai que Baudelaire est une figure fascinante, hein, parce que lui-même, alors bien sûr il faut faire très attention quand on manie cette catégorie, mais à un certain moment il est devenu quasiment anti-lumière, en tout cas oui. il a vraiment, été très influencé par Joseph de Maistre, mm-hmm. Quand on lit ses œuvres, Mon cœur mis à nu, etc., toute cette hostilité au progrès, cette haine contre Voltaire, le mépris du peuple, le refus des droits de l'homme, la critique du clan Hugo, la volonté vraiment de mépriser le peuple, et puis cette héroïsation du dandy, hein. Mmh. Alors tout ça a une postérité réelle au XXe siècle. Alors j'ai notamment observé ça avec d'autres, hein, dans les derniers textes de Foucault. C'est assez intéressant parce que dans les dernières années de la vie de Foucault, à partir de 1978, hein, et jusqu'à sa mort en 1984, Foucault fait une sorte de retour aux Lumières, hein, qu'il a constamment stigmatisé ou du moins dont il se jouait et puis vis-à-vis desquels il avait une attitude très distante. Et donc il revient à un texte fondamental de Kant, hein, qui est la réponse à la question « qu'est-ce que les Lumières ?». Il reprend le fameux « sapere aude », hein, la devise d'Horace, voilà, et le courage d'user de ton entendement, de sortir de ta minorité. Donc finalement c'est le mot d'ordre de l'émancipation des Lumières. Il reprend tout ce rapport à Kant, mais il ajoute la figure de Baudelaire, hein, dans la conférence qu'il devait initialement donner avant finalement de mourir aux États-Unis. Et cette figure de Baudelaire, c'est l'antithèse, bien sûr, de Kant. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la critique de ce que Baudelaire appelle le philosophisme. Et ce mot philosophisme, c'est bien la dénonciation de la secte des philosophes, qui est considérée comme dogmatique, naïve, ayant une vision idolâtre du peuple, etc.
Et est-ce que c'est pas, ce sera ma dernière question, est-ce que c'est pas à ça qu'on assiste aujourd'hui, à cette tradition de retour comme ça de la figure anti-lumière incarné au mieux par Baudelaire, mais cette figure du dandy dont un épigone possible serait un Welbeck, par exemple, aujourd'hui, qui vient apporter la mauvaise nouvelle de l'impuissance de la philosophie à résoudre la question humaine?
Alors, je crois qu'on a évidemment une fascination réelle pour le dandy esthète, hein, qui héroïse sa propre existence, qui conçoit sa vie comme une œuvre d'art, qui sculpte ses actions et son image à la télévision, mais d'ailleurs parfois son anti-image, hein, dans un registre anticonformiste, mais qui au fond a complètement perdu le mot d'ordre de l'émancipation collective. Hein. C'est ce que disait Baudelaire, hein, penser c'est penser seul.
Voilà.
Et je crois qu'effectivement on a là quelque chose de fort, c'est-à-dire l'héroïsation de la singularité, avec l'idée que finalement l'émancipation c'est des vieilles lunes qu'on a enterrées avec le marxisme. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Nathalie Lempereur, avec à la technique Ludovic Auger et à la réalisation Véronique Villard. Dans une seconde, une histoire particulière. And you say what's mine and somebody else says well what is. And you say oh my god am I here all alone.
something is happening and you don't know what it is, do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is, do you?